Chapitre 8. Mike adorait le rituel de la messe. Ce dimanche-là, comme toutes les semaines, il avait servi l'office de 7h30, puis il était resté pour être premier enfant de chœur à la grand-messe de 10h. Les fidèles y étaient moins nombreux, bien sûr, car la plupart des catholiques d'Elmhaven ne tenaient pas à passer une demi-heure de plus à l'église s'ils pouvaient l'éviter. Mike aimait de plus en plus être enfant de chœur. Quand il avait commencé 4 ans plus tôt, le père Harrison n'exigeait pas grand-chose des rares volontaires, à part la ponctualité. Comme les autres enfants de chœur, Mike avait machinalement accompli les gestes et marmonné les réponses en latin sans vraiment se soucier de leur sens, alors qu'ils étaient traduits sur des fiches en carton posées par terre à côté de lui, sans vraiment penser au miracle de l'Eucharistie sur le point de se produire. Il était catholique et c'était son devoir de servir la messe. Cela s'arrêtait là. Beaucoup d'autres catholiques de son âge semblaient d'ailleurs trouver des tas de bonnes raisons pour ne pas le faire. Puis, un peu plus d'un an auparavant, le père Harrison avait pris sa retraite, ou plutôt, on l'avait mise à la retraite. Le poids de l'âge et l'excès d'alcool commençaient à se faire sentir, et ses sermons devenaient de plus en plus bizarres. L'arrivée du père Cavano avait tout changé pour Mike. Bien que les deux hommes fussent prêtres, le père Cavano était à bien des égards tout le contraire du père Harrison. Ce dernier, un vieil Irlandais aux joues roses et aux poils gris, à l'élocution, au mouvement et à l'esprit lent, semblait avoir dit la messe si souvent et devant si peu de fidèles qu'elle paraissait n'avoir pas plus de signification pour lui que son rasage matinal. Le père Cavano, lui, était jeune, très brun, Mike savait qu'il se rasait 2 fois par jour, pourtant, dès 5h du soir, une ombre bleuissait ses joues, et incroyablement convaincu. La messe, pour lui, était chargée de sens. Il l'appelait l'invitation du Christ à partager la scène, et il obligea ses enfants de cœur à s'y intéresser. Du moins, ceux qui continuèrent à la servir. Mike fut l'un des rares à ne pas être découragé par les exigences du nouveau curé. Il fallait comprendre ce qu'on disait. Ne pas se contenter de marmonner des phrases latines, et Mike avait dû suivre pendant 6 mois un cours spécial organisé tous les mercredis soirs au presbytère, où le père Cavano enseignait les rudiments du latin et le contexte historique de la messe. Ensuite, il fallait participer, faire vraiment attention à ce qui se passait. Et le père Cavano s'emportait facilement. Gare aux enfants de cœur négligents. Le père Harrison aimait bien manger et encore plus boire. Toute la paroisse, tout le comté même, savait qu'il était alcoolique. Le père Cavano, par contre, ne prenait jamais une goutte d'alcool, sauf pendant la communion, et semblait considérer la nourriture comme un mal nécessaire. Lorsqu'il faisait des visites, il voulait parler de Dieu, à la différence du père Harrison qui bavardait de tout avec tous, et trouvait normal de passer l'après-midi entier à discuter des conditions atmosphériques et des cultures avec les fermiers à la retraite. Ces visites aux malades et aux mourants ressemblaient aux opérations commando menées par les jésuites, un bajotage de dernière minute pour ceux qui allaient passer l'ultime examen. Il n'avait qu'un seul point faible, à la connaissance de Mike, du moins. Il fumait comme un sapeur. Il grillait cigarette sur cigarette, et dès qu'il ne fumait pas, il donnait l'impression d'attendre avec impatience de pouvoir en griller une. Cela ne dérangeait pas Mike. Son père et sa mère étaient fumeurs, ainsi que les parents de tous ses amis, sauf les Grumbacher, mais ces derniers étaient allemands et un peu bizarres. En ce premier dimanche des vacances, Mike servit donc les 2 messes, appréciant la fraîcheur de l'église et le murmure hypnotique des fidèles, marmonnant les réponses. Mike veillait à bien prononcer les siens, ni trop haut ni trop bas, en un latin correctement accentué, comme le lui avait enseigné le père au cours du presbytère. « Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. » Mike se dédoublait. Tandis qu'une partie de lui se concentrait sur la préparation du miracle de l'Eucharistie, une autre vagabondait librement, comme si son esprit avait vraiment quitté son corps. Il se retrouvait auprès de Memo dans sa chambre sombre. Seulement, Memo avait recouvré l'usage de la parole et ils avaient de longues conversations, comme quand il était petit et qu'elle lui racontait des histoires du vieux pays. Ou bien il planait comme un oiseau à cervelle humaine au-dessus des champs et des forêts derrière le cimetière des cavaliers, au-delà de la grotte. Le père Cavano bénit une dernière fois les fidèles et mena la petite procession jusqu'à la sacristie. Mike retira sa soutane et son surplis, les plia et les mit sur la table où la gouvernante du curé les prendrait pour les laver. Il quitta ses souliers de ville bien cirés et les rangea au fond de la garde-robe. Il ne possédait qu'une paire de chaussures en cuir réservées à la messe. Son père avait renaclé pour les acheter, mais il avait dû s'incliner. Dieu méritait bien ça. Le prêtre rentra. Il avait troqué sa soutane noire contre une chemise de toile et un costume sport en velours. Mike éprouvait toujours un choc quand il le voyait en civil.
« Tu as fait du bon travail, Michael, comme d'habitude. »
Malgré leur relation décontractée, le père Cavano ne l'appelait jamais par son diminutif.
« Merci, mon père. »
Le jeune garçon chercha un moyen de prolonger la conversation afin de rester quelques minutes de plus auprès du seul homme qu'il admirait.
Pas beaucoup de monde à la grand-messe aujourd'hui.
Le prêtre avait allumé une cigarette et la fumée odorante envahissait la petite pièce. Il s'approcha de la fenêtre et regarda le parking maintenant désert.
Hein? Oui, c'est souvent le cas.
Il se tourna vers Mike avant de demander.
Ton ami était là aujourd'hui?
Qui ça?
Mike ne connaissait pas beaucoup de catholiques parmi les garçons de son âge.
Tu sais bien... Michel machin truc, Staffney.
Mike rougit jusqu'aux oreilles. Il n'avait jamais parlé de Michel au père, ni à quiconque d'ailleurs, mais il ne manquait jamais de regarder si elle faisait partie des fidèles. C'était rarement le cas, ses parents préféraient en général aller jusqu'à Peoria pour assister à la messe à la cathédrale Sainte-Mary. Mais les rares fois où elle était là, Mike avait le plus grand mal à se concentrer.
Je ne suis même pas dans la même classe que Michel.
Rétorqua-t-il d'un ton qu'il voulait neutre.
Si c'est ce salaud de Donielson qui en a parlé au père, j'en fais de la chair à pâté.
Ah, pardon.
Le père Cavano hocha la tête et eut un sourire compréhensif sans la moindre nuance de moquerie, mais Mike rougit de nouveau, baissa la tête et laissa ses chaussures, tâche qui sembla l'absorber tout entier. Le père écrasa son mégot dans un cendrier et tapota sa poche à la recherche d'une autre cigarette.
« Qu'est-ce que tu as l'intention de faire cet après-midi »
continua-t-il. Mike haussa les épaules. Il avait vaguement prévu de passer un moment avec Dale et les autres avant de commencer à surveiller Van Zyck. Mais finalement, quelle idée infantile cet espionnage.
« Oh, rien de précis. »
« Je pensais faire une petite visite à Madame Clancy vers 5 heures. » Je crois me souvenir que son mari a aleviné leur étang au printemps dernier, peu de temps avant de mourir. Elle ne verrait sans doute pas d'objection à ce que nous regardions un peu comment se portent ces poissons. Ça t'intéresse ?
Mike sentit la joie monter en lui comme le Saint-Esprit représenté par une colombe sur le mur de l'église et acquiesça.
Parfait. Je passerai te prendre avec la papa mobile vers 5h15.
Le père Cavano appelait toujours ainsi l'automobile de la paroisse une Lincoln noire. Au début, cela avait profondément choqué son enfant de cœur, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il s'agissait d'une petite plaisanterie entre deux. Le prêtre pourrait peut-être avoir des ennuis si Mike la répétait. Mike imaginait deux cardinaux du Vatican descendant d'un hélicoptère et soumettant le père Cavano à la question avant de l'emmener menottes au poignet. Cette plaisanterie était une marque de confiance, une façon de dire « nous nous comprenons tous les deux ». Avec un signe d'adieu, Mike sortit de l'église dans le grand soleil d'un dimanche midi. Dwayne passa une bonne partie de la journée à travailler. Il répara le tracteur, pulvérisa du désherbant le long des fossés, déplaça les vaches du pâturage ouest jusqu'au pré qui s'étendait entre la grange et les champs de maïs et termina par une inspection du maïs, bien qu'il fût encore trop tôt pour sarcler. Le pater était rentré vers 3 heures du matin et, malgré l'absence de moustiquaires, Dwayne avait gardé une fenêtre ouverte pour entendre sa voiture arriver. Martin McBride avait bu, mais il tenait encore debout. Il était entré en jurant et s'était préparé bruyamment un sandwich à la cuisine. Dwayne et Vite n'avaient pas bougé. Le dimanche matin, quand son père n'avait pas la gueule de bois, il passait presque toute la matinée à jouer aux échecs avec son fils. Mais ce jour-là,
il n'y eut pas de parti. Au milieu de l'après-midi, lorsqu'il revint de son inspection des champs de maïs, Duane trouva son père vautré dans la chaise longue sous le peuplier. Un numéro du dimanche du New York Times était éparpillé dans l'herbe autour de lui.
« J'avais oublié que j'avais acheté ça hier à Peoria »,
marmonna-t-il en se frottant la joue. Cela faisait deux jours qu'il ne s'était pas rasé et les poils gris étaient argentés dans cette lumière. Duane se laissa tomber dans l'herbe et feuilleta les pages à la recherche de la rubrique littéraire.
« C'est celui de dimanche dernier ?»«
Qu'est-ce que tu croyais ?»« C'était celui d'aujourd'hui ?»
Il s'éclaircit la gorge.
« Je n'avais pas l'intention de rentrer si tard hier soir, tu sais. » Mais une espèce de professeur de Bradley a commencé à discuter de Marx avec moi dans un pub d'Adam Street et... Bon, tout s'est bien passé ici ?
Sans le regarder, Duane acquiesça d'un signe de tête.
Ce soldat a passé la nuit ici.
Quel soldat ?
Le pater se frotta les joues d'un air songeur, cherchant à démêler la réalité des illusions nées dans les vapeurs de l'alcool.
Je me rappelle avoir pris un soldat en stop quelque part, près du pont. Je n'ai pas l'habitude de m'arrêter pour les autostoppeurs, tu le sais bien, mais comme il commençait à pleuvoir...
Il se tut, regarda d'un air étonné en direction de la maison et de la grange, comme s'il s'attendait à voir le soldat toujours assis dans le pick-up.
« Ouais, » continua-t-il, « je me souviens maintenant. Il n'a pas prononcé un mot de tout le trajet. » Il a juste fait un signe de tête quand je lui ai demandé s'il venait de finir son service. Le plus drôle, c'est que j'ai bien senti sur le moment qu'il y avait quelque chose de bizarre dans son uniforme, mais j'étais trop fatigué pour mettre le doigt sur ce qui clochait.
Et qu'est-ce qui clochait ?
Son uniforme. Ce n'était pas un uniforme de notre époque, pas même de celle d'Eisenhower. Il portait un vêtement en lainage, un lainage brun, avec un vieux chapeau de brousse à large bord et des bandes molletières.
Des bandes molletières ? Ces espèces de guêtres que portaient les soldats de la Première Guerre mondiale ?
C'est ça, ouais.
Martin se rongea l'ongle de l'index comme il le faisait lorsqu'il mettait au point une invention ou échafaudait un des plans mirifiques qui devait le mener à la fortune.
En fait... Tout ce qu'il portait était de l'époque de la Première Guerre mondiale, expliqua-t-il, y compris le ceinturon et les chaussures cloutées. Il était jeune, mais ça ne pouvait pas être un vrai soldat. Il avait dû mettre l'uniforme de son grand-père, ou bien il revenait d'un bal costumé.
Il regarda son fils pour demander.
« Vous avez déjeuné ensemble ?»«
Il n'est pas rentré avec toi cette nuit. Tu as dû l'arrêter quelque part ?»
Le pater réfléchit un instant, puis secoua vigoureusement la tête.
« Non, non, je suis certain qu'il était dans le pick-up à côté de moi lorsque j'ai tourné dans le chemin. Je me souviens m'être dit qu'il était si peu loquace que j'avais oublié sa présence. J'avais l'intention de lui préparer un sandwich et de lui proposer de passer la nuit sur le sofa. »
Il tourna vers Duane, des yeux injectés de sang et insista.
« Je suis absolument certain qu'il était avec moi quand j'ai tourné dans le chemin, Duane.
En tout cas, je ne l'ai pas entendu rentrer avec toi. Il est peut-être parti en ville à pied.
Comme ça, en pleine nuit. De plus, je m'en souviens. Il m'a dit qu'il habitait quelque part dans le coin.
Mais tu viens de me dire à l'instant qu'il n'avait pas prononcé un mot. »
Le pater continua à se ronger les ongles.
Ouais, c'est vrai. Je ne me rappelle pas qu'il ait parlé. Oh, et puis merde !»
Il se replongea dans la rubrique financière du journal. Quant à Duane, il finit de lire les pages littéraires, puis retourna vers la maison. Vite sorti de la grange, frais et dispo après un de ses fréquents petits sommes, prêt à accompagner son maître au bout du monde.
« Hé, mon vieux !» lui demanda le garçon. « Tu n'aurais pas vu un soldat de la Première Guerre mondiale traîner dans le coin par hasard ?»
Vite, ne sachant pas trop ce qu'on attendait de lui, pencha la tête. Duane le caressa derrière les oreilles, puis s'approcha du pick-up et ouvrit la portière côté passager. La cabine surchauffée sentait le whisky et les pieds. Il y avait bien un creux dans le vinyle du siège de droite, comme si un invisible passager y était encore assis, mais il en avait toujours été ainsi. Duane passa la main sous le fauteuil, souleva les tapis de sol, jeta un œil dans la boîte à gants, Il y avait un tas de bazar, des chiffons, des cartes, des livres de poche, plusieurs bouteilles de whisky vides, une grosse clé, des boîtes de bière et même une cartouche neuve. Mais aucun signe de la présence d'un soldat de la Première Guerre mondiale, pas l'ombre d'un Mauser, pas le moindre petit plan des tranchées autour de la Somme. Avec un petit sourire, Duane retourna dans la cour lire le journal et jouer avec vite. La partie de pêche ne se termina pas avant le soir. Madame Clancy, qui se mourait d'acrimonie autant que de vieillesse, n'avait pas voulu que quelqu'un reste dans la maison pendant qu'elle se confessait au père Cavanaugh. Aussi, Mike avait-il attendu près de l'étang en faisant des ricochets et en regrettant d'avoir sauté le déjeuner. Peu d'excuses étaient admises chez les O'Rourke lorsqu'il s'agissait du déjeuner dominical, mais aider le curé en était une. Et quand le père lui avait posé la question, Mike n'avait pas osé dire qu'il n'avait pas mangé. Un petit mensonge de plus à inclure dans sa prochaine confession dans la rubrique « Il m'est arrivé de ne pas dire la vérité à des grandes personnes ». En grandissant, Mike avait compris quelle était la véritable raison du célibat des prêtres. Qui voudrait vivre avec quelqu'un à qui l'on était tenu de se confesser régulièrement? Le père le rejoignit à 7 heures au bord de l'étang avec tout leur attirail de pêche. Avec ce soleil de juin au-dessus des arbres, on avait l'impression qu'il était encore tôt. Ils pêchèrent pendant plus d'une heure. Mike fut le seul à attraper quelque chose. 2 petites perches qu'il rejeta à l'eau, mais la conversation, allant de la nature de la Trinité au souvenir d'enfance du père qui avait grandi dans un quartier de Chicago où sévissaient les gangs de jeunes, avait été si passionnante que le jeune garçon en avait presque le vertige. Mike adorait discuter avec le prêtre. Parler avec Dale ou Duane ou d'autres pouvait être intéressant, ils avaient des idées si bizarres parfois, mais le père Cavanaugh avait réellement vécu. Si les mystères de l'Église n'avaient plus de secrets pour lui, il n'ignorait rien non plus des aspects les plus violents et les plus cyniques de la vie urbaine. L'ombre des arbres avait déjà dépassé les berges de l'étang et s'étendait sur l'eau lorsque le père jeta un coup d'œil à sa montre et s'exclama « Oh mon Dieu, mais il est tard! Madame McCafferty va se faire du souci !» Madame McCafferty était la gouvernante du presbytère. Elle s'était occupée du père Harrison comme une grande sœur, essayant d'empêcher son petit frère de faire des bêtises, et à présent, elle maternait le père Cavanaugh comme s'il était son fils. Ils rangèrent leur matériel et reprirent le chemin de la ville. Après la première descente de la route 6, ils gravirent la colline du cimetière des Cavaliers. Mike l'aperçut, vit des beignets de lumière dorée, et se souvint tout à coup qu'il était censé surveiller Vansai. Il demanda au père de s'arrêter, et celui-ci gara la papa mobile sur le terre-plein herbeux entre la route et la grille de fer forgé.
« Qu'est-ce qu'il se passe ?»
Mike réfléchit à toute vitesse.
« J'avais promis à Memo de jeter un coup d'œil sur la tombe de grand-père. Vous savez, vérifier que l'herbe a été coupée, que les fleurs ont été bien arrosées. »
Un autre mensonge pour sa prochaine confession.
« Je t'attends alors. »
Mike piqua un phare et se tourna vers le cimetière pour cacher sa rougeur au prêtre. Pourvu que celui-ci ne devine pas le mensonge dans sa voix.
« Je préfère rester seul un petit moment. Je veux prier un peu. »«
Génial, Mike. Tu veux prier, alors tu dis à un curé de s'en aller. Ça doit être un péché mortel de mentir en parlant de prière.
De plus, il se peut que je doive jeter les fleurs fanées dans les bois et cela risque d'être un peu long, »
ajouta-t-il. Le père regarda le soleil suspendu comme un ballon rouge au-dessus des champs de maïs.
Le jour commence à tomber, Mike.
Je serai chez moi avant la nuit, promis.
Mais il y a presque 2 kilomètres jusqu'à la ville.
Le prêtre avait l'air dubitatif, comme s'il soupçonnait Mike de méditer quelques bêtises, mais sans arriver à imaginer quoi.
Ça ne me pose aucun problème, mon père. Avec mes copains, on fait tout le temps ce trajet, à pied ou en vélo. On joue souvent par ici.
Tu n'iras pas dans les bois s'il fait noir.
Mais non, je vais juste faire ce que j'ai promis à Memo et rentrer chez moi. J'aime bien marcher.
Le père Cavanaugh aurait-il peur de l'obscurité? Impensable. Et si je lui disais la vérité? L'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre à Old Central, en rapport avec la disparition de Toby. Si je lui avouais que tout ce que j'ai envie de faire, c'est de jeter un coup d'œil sur la cabane à outils où, dit-on, Van Syck passe la nuit. Non, il va me prendre pour un fou.
Tu es sûr? Ta famille te croit avec moi.
Ils savent que j'ai promis à Memo de passer au cimetière, et de toute façon, je serai chez moi avant la nuit.
Avec un petit signe de tête, le père se pencha pour lui ouvrir la portière.
Très bien. Merci de m'avoir tenu compagnie à la pêche. À demain matin, alors?
Ce n'était pas vraiment une question. Mike servait la messe tous les matins.
Bien sûr. Et merci pour...
Il hésita. Pourquoi le remercia-t-il?
De lui parler sérieusement, bien qu'il fût un enfant, peut-être?
Merci de m'avoir prêté une canne à pêche.
Je t'en prie.
La prochaine fois, nous irons jusqu'à la rivière, là où il y a de vrais poissons. Il lui fit un signe de main, manœuvra la papa mobile et disparut en direction du sud. Mike resta un instant immobile, clignant des yeux pour en chasser la poussière, et il sentit les sauterelles sauter de ses jambes dans l'herbe. Puis il se retourna et contempla le cimetière.
« Et si Vansaik est là, gros malin ?»
Le gardien ne devait pas être là. L'air était calme, alourdi par l'odeur de maïs et de poussière humide d'une chaude soirée de juin, et l'endroit semblait vide, donnait l'impression d'être désert. Il ouvrit la petite grille et entra. Son ombre le précédait, et les hautes pierres tombales projetaient leur forme noire sur le sol. Soudain, il prit conscience du silence après ses heures de conversation. Il s'arrêta près de la tombe de son grand-père, qui ne se trouvait pas très loin de l'entrée, à gauche de l'allée centrale. Tous les Orourques étaient regroupés dans ce secteur, mais la famille de sa mère était près de la clôture, de l'autre côté. Il y avait aussi un espace herbeux qui, Mike le savait, était réservé à ses parents, à ses sœurs et à lui. Les fleurs étaient toujours là, quoique fanées, ainsi que le petit drapeau apporté le lundi précédent pour le Memorial Day. On le remplaçait chaque année et la vivacité de ses couleurs était comme un calendrier indiquant le passage des saisons. Son grand-père s'était engagé lors de la Première Guerre mondiale, mais il n'avait jamais quitté les États-Unis. Il avait juste passé 14 mois dans un camp militaire de Géorgie. Quand il était petit, Mike avait écouté Memo lui raconter les aventures à l'étranger des amis de son grand-père pendant la Grande Guerre, et il avait l'impression que l'un des rares regrets de M. Houlihan était de ne pas avoir participé au combat. Les couleurs du petit drapeau étaient très vives, rouge sang et blanc éclatant au-dessus de l'herbe verte. Le soleil du soir baignait le paysage d'une chaude lumière. Quelque part dans la ferme de l'oncle Henri de Dale, une colline plus loin, une vache beugla, et le meuglement monta très clair dans l'air limpide. Mike inclina la tête et marmonna une prière. Après tout, c'était de bien petits mensonges qu'il avait faits. Il n'aurait peut-être même pas à les confesser. Il se signa et se dirigea vers le fond du cimetière où se trouvait la cabane de Vansaik. En fait, cette cabane n'appartenait pas à Vansaik. Elle avait toujours fait partie du cimetière. La porte était cadenassée. Il la dépassa comme s'il se dirigeait vers les bois, la destination habituelle des garçons quand ils coupaient par le cimetière, puis il fit demi-tour en prenant soin de rester dans l'ombre du mur. Des sauterelles sautillaient autour de ses chaussures et l'herbe sèche craquait sous ses pas. La cabane était éclairée d'un côté par une petite fenêtre, à peu près à la hauteur de l'épaule de Mike. Il s'approcha et, la main sur les yeux, essaya de regarder à l'intérieur. Impossible de voir quoi que ce soit, la vitre était trop sale et l'intérieur de la cabane trop sombre. Main dans les poches, il fit en sifflotant le tour de la cahute. Il jeta plusieurs coups d'œil par-dessus son épaule pour vérifier que personne ne venait. Depuis le départ du père Cavano, la route était déserte et le cimetière silencieux. Le soleil était descendu avec cette élégante lenteur écarlate qui caractérise les couchers de soleil de l'Illinois. Le ciel était encore teinté de la clarté rose d'un soir de juin, mais il bleuissait et s'assombrissait petit à petit. Mike inspecta la porte. Le cadenas était un Yale de bonne qualité, mais la plaque de fer soutenant l'anneau était vissée dans le bois plutôt pourri de l'encadrement de la porte. Toujours en sifflotant, Mike secoua la plaque jusqu'à ce qu'une puis deux vis sortent du bois, mais il dut utiliser son canif pour extirper la troisième. Il jeta un coup d'œil aux alentours, s'assura de pouvoir trouver une pierre à proximité pour remettre les vis en place au moment de partir, puis entra dans la cabane. Il y faisait très sombre. Cela sentait la terre fraîchement remuée, ainsi qu'une autre odeur plus aigre, indéfinissable. Il referma la porte derrière lui en laissant une petite fente pour y voir un peu clair et entendre si une voiture s'arrêtait sur le parking. Puis il attendit que ses yeux s'habituent à l'obscurité. Van Syck n'était pas là, c'était l'essentiel. À l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose à part des pelles et des bêches. Normal pour un cimetière. Sur des étagères, il vit des bidons d'engrais et des bocaux remplis d'un liquide noir. Dans un coin étaient entassées des barres de fer rouillées, venant sans doute de la grille, du petit matériel agricole qui devait s'accrocher à un tracteur, deux caisses de bois dont l'une semblait servir de table car une lanterne était posée dessus, et de grosses sangles de toile. Mike se demanda un instant à quoi elles pouvaient bien servir, puis il comprit qu'on devait les placer sous les cercueils pour les descendre dans les tombes. Juste sous la fenêtre se trouvait un lit bas. Mike l'examina. Il sentait le moisi et la couverture brune ne sentait pas meilleure. De toute évidence, il n'y avait pas longtemps qu'il avait servi. Un numéro récent du Peoria Journal Star était tout froissé contre le mur et la couverture traînait à moitié sur le sol, comme si quelqu'un l'y avait jeté précipitamment. Mike s'agenouilla à côté du lit, déplaça le journal et découvrit en dessous un magazine dont certaines pages étaient en papier glacé. Il le prit, le feuilleta et le lâcha brusquement. Les pages en papier glacé étaient pleines de photos en noir et blanc de femmes nues. Mike avait déjà vu des femmes nues, il avait quatre sœurs. Et il avait même regardé dans un journal naturiste prêté par Jerry Deisinger des photos de femmes nues. Il n'était jamais tombé sur des trucs de ce genre. Les femmes étaient couchées, jambes écartées, et tout ce qu'on ne montrait pas d'habitude était clairement visible. Les photos naturistes avaient été retouchées, pas de poils pubiens, un entrejambe pudiquement lisse, mais ces photos-ci dévoilaient tout. Les poils, la fente, les lèvres ouvertes, souvent écartées par les femmes elles-mêmes, dont les ongles rouges exhibaient leurs organes les plus intimes. D'autres étaient à genoux, le derrière face à l'appareil photo, les mains écartant les fesses. D'autres encore jouaient avec leur néné. Mike sentit la rougeur quitter ses joues, et comme si le sang devait obligatoirement affluer quelque part, son pénis se durcit. Il tendit la main vers le magazine et le feuilleta. Encore des femmes, toujours jambes écartées. Mike n'arrivait pas à croire que des filles puissent faire ça en face d'un photographe. Et si quelqu'un de leur famille tombait sur un de ces clichés? Son érection palpita contre son jean. Mike s'était déjà masturbé, mais le père Harrison avait été très prolixe quant aux conséquences spirituelles et physiques d'une telle pratique. Et Mike n'avait pas l'intention de perdre l'esprit ou d'attraper cette sorte d'acné bien spéciale qui affligeait les adeptes des plaisirs solitaires. De plus, il avait naturellement dû confesser ce péché chaque fois qu'il y avait succombé, mais c'était une chose d'avouer sa faute au père Harrison et de se faire vertement penser dans l'obscurité du confessionnal, et une autre de devoir la révéler au père Cavanaugh. Mike aurait préféré devenir athée et brûlé pour l'éternité plutôt que de confesser ce péché au père Cavanaugh. Et s'il l'omettait? Le père Harrison avait décrit de façon très convaincante les châtiments qui attendaient en enfer les pécheurs dépravés. Mike soupira, remit le magazine où il l'avait trouvé, recouvert du journal, et se releva. Il descendrait la colline en courant, puis monterait la côte d'un bon pas. Cela devrait le débarrasser de ses mauvaises pensées et de cette rigidité sous sa braguette. Au moment où il se levait, la couverture glissa et une odeur répugnante remplit la pièce. Il recula, puis se rapprocha et souleva la couverture. Une odeur de terre remuée et d'autre chose de bien pire montait dessous le lit. Mike prit sa respiration et souleva le lit. Il y avait un trou là-dessous, une ouverture parfaitement circulaire d'environ 60 cm de diamètre, un peu comme une bouche d'égout, mais avec des parois de terre tassées. Mike se mit à quatre pattes et essaya de voir à l'intérieur. L'odeur était insoutenable. Mike était allé une fois à l'abattoir d'Oak Hill et ce trou lui rappelait la pièce où l'on jetait les entrailles et les morceaux invendables. Il y régnait la même odeur de sang. Avec en plus les relents de terre remués, le mélange était d'une puanteur si atroce que la tête lui tourna. Il vacilla un instant, ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il eut l'impression d'un mouvement vif comme l'éclair dans les profondeurs du trou, quelque chose fuyant la lumière. Il cligna des yeux, les parois du trou étaient étranges, rougeâtres, bien que le sol ne fût pas argileux dans la région et strié avec des bords réguliers. Cela lui rappelait quelque chose, mais il n'arrivait pas à trouver quoi. Puis le souvenir lui revint. Dale Smith avait une encyclopédie illustrée et les garçons aimaient bien regarder la partie concernant le corps humain. On soulevait des transparents et les différents éléments du corps apparaissaient. L'un des dessins représentait le système digestif avec des vues en coupe. Eh bien, les bords du trou étaient exactement comme la vue en coupe des intestins, rouges et sanguinolents. Sous les yeux exorbités de l'écolier, ses parois semblèrent bouger légèrement, se contracter, puis se relâcher, et l'odeur devint encore plus forte. Mike recula à quatre pattes, osant à peine respirer. Il entendit une espèce de frottement ou de grattement, quelque part. Des rats à l'extérieur? Ou bien quelque chose là-dedans? Mike eut une soudaine vision de tunnels quadrillant le cimetière, reliant les tombes entre elles. Il imagina que Van Syck s'y était engouffré tête la première et avait disparu dans ce boyau sanguinolent jusqu'aux profondeurs de la terre quand il l'avait entendu approcher en sifflotant une minute auparavant. Van Syck, ou pire encore. Mike frissonna. La fenêtre était trop sale pour qu'il puisse en être sûr, mais il avait l'impression qu'il faisait nuit maintenant. Il remit le lit à sa place, s'assura que le journal et le magazine étaient bien comme il les avait trouvés et replaça la couverture de manière à dissimuler le trou. Non qu'elle fût vraiment utile, il faisait si noir là-dedans que si l'odeur ne l'avait pas alerté, il n'aurait jamais remarqué le trou. Et si une main livide surgissait de l'obscurité sous le lit, lui attrapait le poignet ou la cheville? Son excitation sexuelle avait complètement disparu. Il avait plutôt envie de vomir. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche pour moins sentir l'horrible puanteur et se concentra sur un « Je vous salue Marie » et un autre père. Aucun effet. Il crut entendre des pas furtifs dans l'herbe. Il ouvrit la porte et se précipita à l'extérieur. Qu'importait ce qu'il risquait d'y trouver, pourvu qu'il s'éloigne de ce trou. Le cimetière était vide, le ciel était plus noir, une unique étoile scintillait à l'est au-dessus des arbres. Les bois paraissaient sombres, mais c'était quand même un crépuscule d'été. À 15 mètres de lui, un oiseau, perché sur une pierre tombale, semblait le regarder. Il fit quelques pas rapides, puis se souvint du cadenas. Il hésita, se traita d'idiot et fit demi-tour. Il se mit à taper sur les vis. Il lui fallut revisser la dernière et il se servit une nouvelle fois de son canif. Ses mains tremblaient.
Et si quelque chose sort de ce trou, comment partir ensuite de la cabane? Peut-être en se glissant par la fenêtre. Non, la ferme, idiot!
La lame glissa et il se coupa. Il n'y fit pas attention et continua à visser sans penser aux gouttes de sang qui tombaient sur le chambranle.
Fini.
C'était loin d'être parfait. Un examen attentif révélerait que le loquet avait été enlevé puis remis.
Et puis après?
Mike descendit l'allée, toujours pas un chat sur la route. Il dévala la colline à toute allure.
Si seulement l'ombre n'était pas si épaisse dans ce creux.
Les bois de chaque côté étaient déjà plongés dans l'obscurité. La taverne de l'Arbre Noir était fermée. On ne servait pas d'alcool le dimanche. Cela faisait un drôle d'effet de voir ce bar sans automobile garé sur le parking. En arrivant en haut de la montée, il ralentit. À gauche, les bois continuaient, mais à droite, c'était des champs de maïs, et il y faisait beaucoup plus clair.
À une centaine de mètres, il apercevait le croisement de Jubilee College Road, et de là, il verrait le château d'eau à moins d'un kilomètre vers l'ouest. Tout en se traitant de couard, Mike avait encore ralenti l'allure lorsqu'il entendit un bruit derrière lui. Pas une voiture, des pas. Sans s'arrêter, il se retourna en serrant inconsciemment les poings. Un autre enfant, pensa-t-il en voyant une silhouette sortir de l'ombre des arbres au sommet de la colline. Il ne pouvait pas voir qui c'était. Il reconnaissait seulement l'uniforme des Boy Scouts. Mais ce n'était pas un enfant. Le gars devait avoir entre 20 et 30 ans et il portait plutôt des vêtements de soldat. Mike en avait vu de ce genre sur de vieilles photos. Le visage du type paraissait cireux, livide, avec des traits bizarrement estompés. Il était à environ 15 mètres derrière lui.
« Salut !»
cria Mike en levant le bras. Il ne le connaissait pas, mais il se sentait soulagé. Ce n'était pas Van Syck. Le soldat ne répondit pas à son salut. Mike voyait ses yeux, mais ce type se comportait presque en aveugle. Il ne courait pas, il marchait, les jambes raides, un peu comme à la parade, mais assez vite pour diminuer la distance entre eux. Il était à moins d'une dizaine de mètres maintenant, et Mike distinguait clairement les boutons de cuivre de son uniforme marron et les espèces de bandages kaki autour de ses mollets. Les grosses chaussures cloutées faisaient crisser le gravier. Mike essaya de distinguer son visage, mais il était caché par l'ombre du chapeau. Le jeune homme avançait vite, comme s'il cherchait à le rattraper.
Et merde !
Mike prit ses jambes à son cou et dévala Jubilee College Road vers la masse de verdure que formait Elm Haven. Lawrence, le petit frère de Dale, avait peur du noir. À part cela, à la connaissance de son aîné, rien n'effrayait le petit garçon. À 8 ans, il grimpait à des hauteurs que personne, sauf peut-être Jim Harlane, n'envisageait d'atteindre. Lawrence était un coriace que son courage discret poussait à foncer, point en avant, sur des brutes 2 fois plus grandes que lui, même s'il risquait de se prendre une dérouillée qui aurait mis en fuite n'importe quel gamin de son âge. Lawrence adorait tout ce qui était casse-cou. Sans hésiter, il s'élançait à bicyclette de la plus haute rampe qu'il puisse construire, et lorsque quelqu'un devait s'allonger en bas pendant que les autres prenaient leur élan pour sauter, il était le seul volontaire. Il jouait au football avec des hordes de garçons bien plus vieux que lui, et il trouvait qu'être lancé du haut d'une falaise enfermée dans un carton devait être une aventure amusante. Dale se disait qu'à force de n'avoir peur de rien, il finirait par se tuer. Mais Lawrence avait peur du noir, tout particulièrement sur le palier du premier étage et encore plus dans leur chambre. La maison que les Stewart louaient depuis 5 ans, date de leur arrivée de Chicago, était ancienne. Au rez-de-chaussée, l'interrupteur en bas de l'escalier permettait d'allumer le petit lustre du vestibule, mais laissait le palier du premier étage dans la pénombre. Pour entrer dans leur chambre, les enfants devaient traverser cette zone d'ombre et, détail qui, du point de vue de Lawrence, aggravait considérablement la situation, il n'y avait pas d'interrupteur à la porte de leur chambre. Il fallait trouver à tâtons le cordon de la lampe et tirer. Lawrence avait horreur de faire ce geste et suppliait toujours Dale de s'en charger. Une fois, avant de s'endormir, Dale avait demandé à son petit frère pourquoi il détestait tellement allumer dans le noir. De quoi avait-il peur exactement? Surtout dans leur propre chambre. Au début, Lawrence avait refusé de répondre. Puis il avait fini par dire d'une voix ensommeillée
« Il pourrait y avoir quelqu'un d'embusqué ?»«
Quelqu'un ? Mais qui donc ?»«
Je sais pas. Quelqu'un. Parfois, je me dis qu'en entrant et en cherchant le cordon à tâtons, tu sais qu'il est un peu dur à trouver. Ma main rencontrera un visage. »
Dale avait senti le duvet de sa nuque se hérisser.
« Tu sais bien, » avait continué l'enfant. Le visage d'un grand type, mais pas tout à fait humain. Et je serais là, dans le noir, avec ma main sur sa figure, sur ses dents lisses et froides, et je toucherais ses yeux grands ouverts, comme ceux d'un mort, et
la ferme. Même avec la veilleuse allumée, Lawrence avait peur. La maison était assez ancienne pour n'avoir aucun placard.
Avant, les gens rangeaient leurs vêtements dans de grandes armoires, avait expliqué leur père. Mais les précédents locataires en avaient installé un dans la chambre des garçons. Il était d'une facture très grossière, une simple boîte verticale en planche qui allait du plancher au plafond. Lawrence disait qu'il ressemblait à un cercueil, debout dans le coin, et Dale, même s'il ne l'admettait pas, pensait la même chose. Lawrence refusait absolument d'ouvrir la porte le premier, même en plein jour, et Dale se demandait ce qu'il craignait d'y trouver. Mais surtout, Lawrence avait peur de ce qui pouvait être embusqué sous son lit. Les deux enfants dormaient l'un à côté de l'autre, dans des lits jumeaux identiques. Lawrence était persuadé que quelqu'un les guettait là-dessous. Si leur mère se trouvait dans la chambre, il s'agenouillait près du lit pour dire ses prières, mais si les deux garçons se trouvaient seuls, le petit enfilait son pyjama à toute allure et bondissait aussitôt dans son lit en s'approchant le moins possible de la zone d'ombre en dessous. Puis il bordait soigneusement ses draps et ses couvertures afin de ne rien laisser traîner sur le sol. S'il faisait tomber un journal, il demandait à son frère de le lui ramasser, et si Dale refusait, le journal restait par terre jusqu'au matin. Dale avait essayé de raisonner son frère.
« Regarde, idiot, il n'y a rien là-dessous, que des moutons. Mais il pourrait y avoir un trou.
Un trou ?
Oui, un tunnel. Ou un souterrain. Avec quelqu'un caché dedans pour m'attraper. »
avait-il ajouté d'une petite voix. Dale avait éclaté de rire.
« On est au premier étage, Nickdouille. Comment veux-tu qu'il y ait un tunnel au premier étage ? C'est tout du bois !»
Et il avait tapé du poing sur le plancher. Le petit avait fermé les yeux, comme s'il s'attendait à voir une main sortir de sous son lit et saisir le poignet de son frère. Finalement, Dale avait renoncé à convaincre Lawrence qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur. Dale, lui, n'avait pas peur au premier étage. C'était plutôt le sous-sol qui lui donnait des sueurs froides, surtout la cave à charbon où, tous les soirs d'hiver, il devait aller remplir la chaudière, mais il ne l'avait jamais avoué à personne. Et s'il adorait l'été, c'était d'abord parce qu'il n'avait pas à descendre au sous-sol. La peur de Lawrence, par contre, durait toute l'année. Lorsque, en ce premier dimanche des vacances d'été, Lawrence lui demanda de monter lui allumer la lumière, Dale poussa un soupir, ferma son tarzan et précéda son frère. Il n'y avait pas de visage dans l'obscurité. Rien ne surgit de sous le lit. Et quand Dale ouvrit la porte du placard pour y ranger la chemise de son frère, rien n'en bondit ou n'essaya de l'attirer à l'intérieur. Lawrence enfila pour la nuit une sorte de tenue de Zorro et Dale se rendit compte que, bien qu'il fût à peine 9 heures, il avait envie de dormir lui aussi. Il mit son pyjama, alla jeter ses vêtements sales dans le panier et se coucha, décidé à continuer au lit sa lecture des aventures de Tarzan dans la cité d'Opar. Il y eut un bruit de pas et leur père apparut à la porte. Il avait ses lunettes sur le nez, ce qui le vieillissait et lui donnait une expression plus grave que de coutume.
« Eh, bonsoir, pa !»
cria Lawrence qui venait de border ses draps et de s'assurer que rien ne risquait de tomber sur le sol pour attirer les créatures dessous le lit. « Bonsoir, les loupiots. On est au Plumard bientôt, ce soir. »«
Je veux lire un peu, »
expliqua Dale. Il devina soudain qu'il se passait quelque chose. Il n'était pas dans les habitudes de leur père de monter leur dire bonsoir et l'enfant remarqua son air tendu.
« Qu'est-ce qui se passe, papa ?»
Leur père entra, retira ses lunettes et s'assit sur le lit de Lawrence en s'appuyant de la main sur celui de Dale.
« Vous avez entendu le téléphone ?»
« Ouais ?»
C'était Madame Grumbatcher.
Il enleva ses lunettes, joua un instant avec, puis les rangea dans sa poche.
Elle appelait pour me dire qu'elle avait rencontré Madame Jensen à Oak Hill aujourd'hui.
« Madame Jensen ? Tu veux dire la mère d'Arlène ?»
Lawrence n'avait jamais compris pourquoi Arlène et sa mère portaient des noms différents.
« Chut !» intervint Dale.
Oui, la mère de Jim,
reprit leur père en tapotant la jambe de Lawrence sous la couverture.
Elle a dit à Madame Grumbatcher que son fils avait eu un accident.
Dale sentit son cœur battre un grand coup. Dans l'après-midi, il était passé chez Arlène avec Kevin parce qu'il cherchait des joueurs pour faire une partie de baseball. Tout était fermé, et ils avaient pensé qu'il était en visite chez de la famille ou quelque chose de ce genre.
Un accident ? Répéta-t-il. « Il est mort ?
Dale était sûr et certain qu'Arlène était mort. Mais non, gros malin, il n'est pas mort. Mais il est grièvement blessé et il n'avait pas encore repris connaissance quand Madame Grumbacher a rencontré sa mère. Il est à l'hôpital d'Oak Hill.
Qu'est-ce qui s'est passé?
La voix de Dale était rauque. Son père se frotta la joue. On ne sait pas trop. Il semble que Jim ait voulu escalader le mur de l'école.
D'Old Central?
Oui. Il faisait de l'escalade et il a dû tomber. C'est Madame Moon qui l'a trouvé ce matin en allant chercher des journaux dans la benne à ordures qui est juste à côté de l'école. Bref, Jim est tombé là-dedans soit hier soir, soit tôt ce matin, et il a perdu connaissance.
C'est vraiment grave?
Leur père hésita un instant, tapotant les jambes de ses deux fils. Madame Grumbacher dit que, d'après Madame Jensen, il va s'en sortir. Mais il n'a toujours pas repris connaissance. Et il s'est cogné la tête et souffre d'une sérieuse commotion.
C'est quoi, une commotion?
Demanda Lawrence, les yeux écarquillés.
Comme si tu te cognais le cerveau ou te fendais le crâne, expliqua brièvement Dale. Tais-toi, laisse papa raconter.
Il n'est pas tout à fait dans le coma, mais il est toujours inconscient. Les docteurs disent que c'est normal après un tel choc à la tête. Je crois qu'il a aussi plusieurs côtes cassées et une double fracture du bras, je ne sais pas lequel. Il a dû tomber d'assez haut et heurter le rebord de la benne. Et s'il n'avait pas eu des ordures un peu molles à l'intérieur pour amortir sa chute...
Il serait comme le petit chat de Madame Moon qui s'est fait ratatiner sur la grande route. Hein, papa?
Dale donna à son frère un coup de poing sur l'épaule et, sans laisser à son père le temps de le réprimander, demanda
« On pourra aller le voir à Oak Hill, papa ?»«
Bien sûr, mais pas avant quelques jours. Il faut d'abord qu'il reprenne conscience et on va lui faire un tas d'examens pour vérifier que tout va bien. Si son état empirait, on le transférerait à l'hôpital de Peoria. » Il tapota une dernière fois les jambes de son fils cadet et ajouta « Mais s'il va mieux, nous irons le voir cette semaine. » Et ne lisez pas trop tard, vous deux.
Pas ? Comment ça se fait que la mère d'Arlène ne se soit pas aperçue de son absence la nuit dernière ?
Demanda Lawrence.
Et pourquoi on ne l'a trouvée que ce matin ?
Un éclair de colère traversa brièvement le regard de M. Stewart, mais cette colère n'était pas dirigée contre Lawrence. Je ne sais pas, mon garçon. Peut-être sa mère le croyait-elle bien tranquillement endormi dans son lit. Ou peut-être que Jim est allé escalader l'école tôt ce matin.
Ça m'étonnerait,
intervint Dale.
Arlène est toujours le dernier à se lever. Il a fait ça hier soir, j'en mettrai ma tête à couper.
À la séance gratuite, dès les premières gouttes de pluie, tous les spectateurs étaient allés se réfugier dans leur voiture ou sous les arbres pour assister à la victoire finale de Rod Taylor sur les Morlocks. Et le second film avait été annulé.
Qu'est-ce qu'Arlène pouvait bien fabriquer à escalader Old Central, se demandait Dale.
Papa,
continua-t-il,
tu sais à quel endroit de l'école il grimpait?
Leur père fronça le sourcil. Attends, il est tombé dans la benne à ordures qui est près du parking. Alors je pense que c'était à l'angle le plus proche d'ici. C'est là que se trouvait votre classe cette année, non?
Dale essaya d'imaginer comment il s'y était pris.
Le tuyau de gouttière, sans doute, peut-être les pierres angulaires, certainement la saillie sous la fenêtre.
Bon Dieu, mais c'est à des kilomètres de hauteur. Pourquoi est-il monté là-haut?
Son père exprima la même pensée. Est-ce que vous voyez pour quelle raison il aurait pu essayer d'entrer dans votre ancienne classe? Lawrence hocha la tête. Il serrait dans ses bras le vieux panda déguenillé qu'il appelait Teddy.
Non, je vois vraiment pas, répondit Dale.
Bon, écoutez, je serai absent demain et mardi, mais j'appellerai pour avoir de vos nouvelles et savoir comment va votre ami. Et nous irons lui rendre visite à la fin de la semaine, si vous voulez. Plus tard, Dale essaya bien de lire, mais les aventures de Tarzan dans la cité perdue lui paraissaient un peu débiles. Quand il se décida à se lever pour éteindre, Lawrence tendit la main par-dessus l'espace entre leurs lits pour prendre la sienne. Lawrence voulait souvent qu'on lui tienne la main pour s'endormir, mais la plupart du temps, son frère refusait. Pas ce soir. Les rideaux des fenêtres n'avaient pas été tirés. Dale ne pouvait pas voir Old Central, mais il distinguait la pâle lueur du lampadaire près de l'entrée nord. Dale ferma les yeux et les rouvrit aussitôt. Dès qu'il essayait de s'endormir, il voyait Arlène étendue au milieu des morceaux de planches et des détritus. Van Syck, Rune et les autres étaient autour de la benne. Ils regardaient l'enfant inanimé et échangeaient des sourires qui découvraient leurs dents de rat. Il se réveilla en sursaut. Lawrence dormait, serrant Teddy contre lui et ronflant doucement. Dale osait à peine respirer. Il ne lâcha pas la main de son petit frère.